Médias.
Médias. Podcast.
Médias. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Mon invité d'aujourd'hui est un homme qui a réussi à se réinventer, à trouver sa propre définition de la vie et à s'adapter pour vivre le rêve de toujours. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, version homme.
Karim Louali, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec moi dans la version homme de Femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Karim ?
Ça fait plaisir d'être parmi vous et ça va très très bien.
Ben, aujourd'hui, je ne dis pas docteur Karim Louali parce que ce n'est pas en votre qualité de médecin que je vous reçois, mais c'est en votre qualité de Karim tout court. De l'homme que vous êtes
oui.
aujourd'hui.
Ben, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Hein.
C'est vrai ? Vous pensez qu'on ne peut pas dissocier la personne de la profession ?
Non, surtout quand on est médecin, parce qu'on est toujours sollicité, que ce soit en petite famille ou en grande famille. On vous voit toujours avec l'œil du médecin d'abord.
Hein. Alors justement, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir médecin ? Puisque aujourd'hui, ça fait tellement partie de votre quotidien, de votre vie, dans la sphère pro comme dans la sphère privée. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu un spécialiste de la nutrition ?
Alors, il faut dire qu'il y a eu deux ou trois anecdotes qui ont un peu ponctué ma carrière et mes choix, hein, et puis c'est le destin. Et en fait, on m'a fait goûter un soda à l'âge de 2 ans.
Mm-hmm.
Je n'ai pas du tout aimé. Bon, à 2 ans, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais bon, peut-être que j'étais prédestiné à faire ce métier dès l'âge de 2 ans, parce que depuis, je n'ai jamais regoûté au soda. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, hein, 46 ans. Alors après, moi, je suis de la génération de Georges Clooney et de Urgence.
Donc, pourquoi vous les situez comme ça ? Pourquoi vous vous situez par rapport à Georges Clooney, justement ?
Parce que à l'année du bac, c'était la série Urgence.
Ah, ok.
Puis bon,
okay,
on a
ok, ok, ok. Georges Clooney, Urgence. Oui, la série, la fameuse série. Ok.
Oui, alors, on a été imprégnés. C'était beau de sauver des vies,
oui,
etc. Sauf que la réalité est très, très loin du beau tableau idyllique qu'on nous brossait dans les séries TV. Donc oui, c'était l'une des raisons. Quelques amis qui m'ont poussé à faire médecine pour qu'on reste ensemble, des petites choses comme ça. Mais une fois débarqué dans cette vie, en fait, on prend une belle claque parce que deux raisons se posent. Parce que quand on est brillant dans ses études et quand on est parmi les premiers de la classe et qu'on se retrouve dans une faculté où tout le monde est brillant, on commence à se poser des questions.
C'était votre cas, justement ?
Oui. C'était mon cas, ça m'a fait douter. Je me suis dit, je ne suis pas à ma place, parce qu'il y avait 700 personnes à l'amphithéâtre, on était dans un environnement plus ou moins protégé, etc.
C'est plus moi le top du top, en fait.
Voilà.
Ça déstabilise.
Oui, beaucoup, énormément. Et puis, surtout, quand j'ai commencé à faire mes stages hospitaliers, là, j'ai compris quelque chose. Que j'étais du mauvais côté de la barrière. Ce n'est pas pour ça que j'avais signé. Moi, j'ai signé pour sauver la vie des gens. Et à l'intérieur du CHU, il n'y avait que les misères, que les complications. En fait, non. Moi, je suis là pour sauver la vie des gens et pas pour traiter les complications qui sont dues aux maladies chroniques, aux maladies graves. Et quand même, j'ai fait une petite année blanche et c'était très sympathique parce que c'est ce qui a changé toute ma vision de la chose. Je suis parti dans la com, l'événementiel. C'est ce qui a donné mon goût à la communication, aux médias, etc. Et quand je suis revenu reprendre mes études de médecine, en fait, c'était avec une autre mentalité. C'était dans le but d'être passionné, pas de réussir le premier, pas cette pression d'être devant. C'était plutôt pour la beauté du métier, pour la prévention, pour la sensibilisation.
Alors, d'ailleurs, une petite question. Pardon, docteur. Pardon, Karim. Je ne veux pas vous appeler docteur. Pardon, oui. Karim. Quand vous dites, quand je suis partie, je suis revenue, c'était pour la beauté d'être là, pour la beauté d'apprendre et pas pour celle d'être le premier, ça vous a pris un an pour prendre conscience de ça, qu'être premier ne voulait pas forcément dire être bien dans sa peau.
Oui.
C'est ça ?
Forcément.
C'est une forme de deuil forcément, de quelque chose ?
Forcément, on nous formate. C'est-à-dire, aujourd'hui, on nous formate à être les premiers, on nous formate à l'excellence, on nous formate à faire des grandes écoles. Et ce n'est pas forcément ça, être épanoui. Vous savez, aujourd'hui, ce sont les gens qui sortent de leur zone de confort, qui sont épanouis, qui réussissent dans leur vie. Hein, parce que ceux qui sont formatés pour être les premiers de leur classe, pour décrocher les grandes écoles, ils vont toujours rester dans leur zone de confort et vont travailler, cravacher, être dans ce salariat, etc. Et c'est pas eux qui vont aller plus dans l'entrepreneuriat, donc prendre les risques, etc. Mmh. Et moi, cette année blanche m'a fait sortir de ce mood qui me suivait tout le temps. C'était en troisième année de médecine, je me rappelle très bien. Je rentrais pour signer mes copies vierges parce que je n'avais pas préparé mes examens pour garder ma place à la faculté. Et je me lève la tête, je me dis, ah oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde la tête de tous ces étudiants, mais est-ce que moi j'étais comme ça? Est-ce que, ah là là, des nuits blanches à ne pas dormir, etc. Une pression tellement énorme qu'on finit par perdre ses moyens, par perdre le goût de faire les études qu'on aime, le goût de la vie. Et non, c'est pas ça. Et c'était incroyable parce que dès que j'ai repris mes études de médecine, c'était moins de pression, pas forcément le premier, plus dans la profondeur, plus dans la compréhension, plus dans l'amour du métier. Et les choses ont été très fluides. D'ailleurs, j'ai commencé ma spécialité en nutrition avant même de prendre mon doctorat en médecine. Parce que je savais que je voulais être dans la partie prévention, dans empêcher les gens de tomber malades, empêcher les gens de se faire opérer, de se faire amputer, d'avoir des complications santé. Et donc, d'où l'amour pour l'enseignement, pour les médias et pour la communication.
Alors, vous l'avez dit, premier jour à 2 ans et quelques, on vous fait goûter un soda, vous n'aimez pas. Aujourd'hui, vous avez 46 ans, toujours pas de soda. Vous faites comment avec les enfants ?
Écoutez, c'est incroyable parce que les enfants, c'est des pages blanches. Et c'est d'abord aux parents, suite à la société, aux médias, à l'environnement, de remplir ces pages petit à petit. Alors, l'anecdote, mon gamin de 6 ans, de 7 ans, il vient de découvrir un morceau de sucre pour la première fois il y a quelques mois.
OK.
Ça ne veut pas dire que je le prive. Ça veut dire que quand on ouvre les yeux dans une famille où la nutrition, et d'ailleurs, je tiens mais vraiment à rendre hommage à ma maman, hein, qui a aujourd'hui 70 ans, et qui a toujours été dans ce healthy lifestyle, c'est-à-dire à la maison, ça a toujours été dîner léger, pas d'huile, pas de friture, des petites choses comme ça, c'est-à-dire c'est elle qui nous a fait goûter à cet amour du healthy. Mais oui, les enfants s'imprègnent des parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mes enfants, ils peuvent boire avec moi 2-3 verres de thé sans sucre, ils peuvent prendre un yaourt sans sucre, et ça passe très très bien. Il vient de découvrir un morceau, il me dit « Papa, c'est quoi ?» Je lui dis « Ah, c'est du sucre, mais nous, on ne consomme pas, ce n'est pas bon pour la santé. » Mais ça ne veut pas dire que je les prive, c'est-à-dire quand il y a un anniversaire, quand ça sort, etc. Ben, on laisse les choses libres. D'ailleurs, la vie, c'est cet équilibre. On n'est là pas pour priver les gens, mais on est là pour manger sainement, prendre du goût à manger sainement et puis se faire plaisir quand il le faut.
Alors, je comprends aussi pourquoi vous dites « Mon métier est intimement lié à ma vie » puisque vous avez rencontrer votre femme dans votre cabinet, c'est bien ça?
Effectivement, ouais. Ça c'est l'une des plus belles choses de mon métier. En fait, c'était ma patiente et il y a eu ce qu'il y a eu. Bien après, elle a maigri et elle est partie. Et une année après, on s'est rencontrés dans d'autres circonstances et les D'accord. choses sont allées. Et puis aujourd'hui, c'est ma femme et on a 3 enfants ensemble. Donc,
alors, est-ce qu'on arrive à avoir, est-ce que vous arrivez à avoir une relation non, sans le regard du scientifique et du professionnel? Vous avez été son médecin, vous l'avez accompagné dans un régime de perte de poids, vous vous êtes revu un an après. Est-ce qu'aujourd'hui, quand elle prend quelque chose, vous lui dites « Attention, ah, ça fait grossir. Ah, attention. »
Non. Alors,
la vérité, Karim, honnêtement.
Oui, non, c'est la main de fer dans le gant de velours.
OK.
Il y a des fois on tape, il y a des fois on lâche. Post-grossesse, moi je lui donne toujours 2 ans. Je ne parle pas jusqu'à ce qu'elle finisse 2 ans post-partum. Puis après, je lui dis, écoute ma grande, il est temps que...
Au lieu de dire ma reprenne. Grande, j'espère qu'au moins vous dites, bon écoute ma chérie, mon amour. Alors, honnêtement.
Oui, effectivement. Ouais. Effectivement, mais l'anecdote, c'était, en fait, la nutrition touche en tous ceux qui nous entourent, nos amis, etc., ouais. Le public, et c'est ça qui est beau. Et puis, surtout les enfants, parce que mon petit gamin de 2 ans et demi, la dernière fois, il dit « Ah non, papa, ce fast-food, sans citer de nom, ouais. c'est pas bon pour la santé. » C'est-à-dire, bon, moi, ça me fait plaisir. C'est-à-dire, les enfants, quand je les suis dans mon cabinet, ce sont eux qui ont le plus d'impact sur le parent, le c'est-à-dire parent. Qui vont moraliser les adultes.
D'abord, revenons au couple.
Alors, moralité et anecdote, ma belle-mère.
Ouais.
Alors, bien entendu, aujourd'hui, elle est consciente des choses.
Ouais.
Alors, aujourd'hui, elle vient chez moi, elle me dit, écoute, heureusement qu'on vous a rencontré, on ne comprenait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais les premières années de mariage, chaque fois qu'elle venait chez moi à la maison, elle avait un gros pincement de cœur pour sa fille et j'ai eu des remarques style « Ah, on dirait que ma fille est devenue un lapin chez toi à la maison parce que ça ouvre le frigo et on trouve que des choses vertes, des salades, des légumes. » Et en fait, cette notion de « khair », comme on dit, elle est très différente parce que les gens ne sont pas conscients forcément de la santé. Et pour eux, le khair, c'est avoir des plateaux de viennoiserie ou qui déjeuner, ouais. Des gâteaux tout le temps, des choses comme ça. Et petit à petit, les choses changent. Il y a eu des anecdotes comme ça, mais dans mon mariage, j'ai posé les fruits en premier. Les gens n'ont rien compris. J'ai posé les fruits en premier. On a servi le dîner une heure après. Il y en avait certains qui ont dit « Ah, on est venu trop tard, on a raté le dîner.
» Vous auriez pu prévenir quand même que vous alliez un petit peu jouer avec les, avec les règles, en quelque sorte.
Ben, il faut surprendre la vie, hein. Il faut baisser, il faut foncer tête baissée. Moi, je ne réfléchis pas. Hein. Donc, c'est le cœur, quand on le sent, on avance et on y va.
Donc, quand elle passe les deux années et que vous lui dites « Bon, ma chérie, maintenant, je suis prêt à t'accompagner », vous l'accompagnez ou bien elle fait ça toute seule ?
Non, elle le fait toute seule parce que, en fait, j'ai découvert chez elle un goût très prononcé pour la cuisine. Et puis, avec le réajustement, moi, je n'ai fait qu'ajuster certaines choses. Moi d'ailleurs je lui dis, elle est bancaire, je lui dis vraiment, je lui dis, il faut que vous changez de métier, il faut qu'elle change de métier, je lui dis que tu es faite pour faire blogueuse culinaire parce que je vois que durant la diversification alimentaire de mon grand, de mon premier, elle a fait des choses extraordinaires, elle est même partie à faire des crêpes au lait maternel, imaginez.
Ah, ok.
C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai dit, tu es dedans, la maternité, les enfants, la diversification alimentaire. Donc aujourd'hui, oui, elle se prend en charge elle-même. D'ailleurs, elle m'aide beaucoup dans mon métier. Moi, je suis nutritionniste et pas chef cuisinier.
Hein. Ouais.
Et donc, pas mal de recettes, de petites choses qu'on conseille à nos patients. C'est ma femme qui est derrière les fourneaux, c'est ma femme qui donne conseil.
Alors, justement, vous êtes en train de conseiller à votre femme de se lancer, d'être blogueuse, de lâcher le travail conventionnel de la banque et d'aller vers les réseaux sociaux, etc. Beaucoup d'hommes, marocains notamment, ne veulent pas que leur femme s'expose sur les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi, Karim ?
Écoutez, il y a une exposition qui est saine. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut faire la différence entre sortir dans les réseaux pour dire n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, cette communication 4.0 est obligatoire dans la vie.
Ouais.
Et nous-mêmes, moi je dis à 46 ans, parfois, les choses vont plus vite que moi, parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles générations de médecins décalés qui proposent autre chose que les gens suivent, et on est obligé de coller, sinon ça va passer. Aujourd'hui, moi, une exposition saine, pour alerter l'opinion publique, oui, moi je lui dis, tu es parfaite dans tout ce qui est culinaire des enfants, c'est-à-dire l'art et la manière de te faire manger des légumes, hein, mille et une façons, et d'une manière très bonne, hein, des gaufres à la courgette, aux légumes, des petites choses comme ça. Donc moi je lui dis, il y a quelque chose à faire, puis non, moi je ne suis pas contre, j'ai été élevé dans un foyer où l'homme est égal à la femme, parce que ma maman elle-même travaillait à la banque, et à l'époque, ce n'était pas l'horaire continu. Et tout le monde savait ce qu'il y avait à faire pour que le foyer avance. Donc, moi, ça, c'est des choses qui m'ont marqué parce qu'on rentrait entre midi et deux. Et on devait tous manger, tous être à l'école à l'heure. Et chacun savait ce qu'il avait à faire. C'était organisé. Et puis, il n'y avait pas de différence garçon-fille. Hein. Tout le monde faisait tout le monde chez nous à la maison. Moi, je pense parce que ma maman travaillait, donc il n'y avait pas d'autre choix. Mais je pense que dans d'autres foyers où il y avait plus de femmes au foyer, je pense que les choses auraient été différentes. Hein, parce que finalement, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui montre. C'est-à-dire, c'est la maman qui va dans une maison dire « Ouais, non, ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de femme, ne fais pas ça mon garçon. » Donc, l'erreur, elle vient de là. Et c'est à nous, la nouvelle génération, de briser cette notion-là avec nos enfants. C'est-à-dire, il ne faut pas faire de discrimination, il n'y a pas de choses de filles ou d'hommes. Aujourd'hui, on voit que les femmes d'entreprise sont beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus carrées dans leur métier parce qu'elles font leur travail avec amour. Et moi, je le dis, la femme est multifonction. Elle peut faire plusieurs tâches en même temps, contrairement à l'homme. Hein?
Justement, en parlant de famille, en parlant de parentalité, vous avez eu deux expériences et les deux... Alors, le deuxième, je sais qu'il est né pendant la COVID, c'est ça? C'est stressant, justement, ça a été stressant cette période d'avoir un bébé en plein COVID?
Oui, écoutez, les enfants, c'est jamais facile. Et en plus, il y a des tests de vie qui viennent comme ça et qui nous testent. Et puis, il faut courber le dos, laisser la tempête passer et prendre toujours le meilleur. Ça a été difficile parce que en fait dans le premier j'étais là, j'ai assisté à l'accouchement, je l'ai pris dans mes bras, j'ai coupé le cordon, il y a eu ce lien qui s'est fait. Et le second, j'étais pas là, je l'ai pas vu durant, ils l'ont gardé en quarantaine, quinzaine de jours, et ça a été très très difficile de ne pas voir la maman et l'enfant à côté de soi. C'est des expériences qui marquent et qui nous montrent la valeur de la famille, la valeur de la chose quand on l'a, c'est con. On ne l'a pas, qu'on commence à se dire « Ah, c'est pas bien ». C'était une expérience très marquante et très difficile parce que du jour au lendemain, on peut tout perdre, sa femme, son enfant. Et finalement, c'est pour ça qu'on se bat dans la vie, pour sa petite famille, pour ses enfants.
Mais pour qu'est-ce qui s'est passé? Elle a attrapé le virus pendant la grossesse, c'est ça?
Oui.
Et ça a déclenché l'accouchement?
Elle a attrapé le virus. Non, ça n'a pas déclenché. Elle a attrapé le virus pendant... le Covid, elle a eu une grande atteinte pulmonaire. C'était un cas assez grave. Et elle est restée hospitalisée pendant plus de 25 jours.
D'accord.
Donc, heureusement que on fait confiance à notre système de santé qui ont été exceptionnels dans la recherche, dans les dernières choses. Et finalement, la belle équipe qui la prenait en charge a pu la sortir de là. Et une fois la césarienne faite, on dirait qu'il n'y avait rien du tout. C'était magique. Bon, après, la reprise a été petit à petit difficile, mais petit à petit, les choses ont repris leur cours. Hein.
Ouais. Mais alors, vous avez dit une chose, vous avez dit avec le premier, j'ai coupé le cordon et donc le lien a pu s'établir très vite. Avec le deuxième, c'était plus compliqué parce que je n'étais pas là. Une femme, quand elle tombe enceinte, sans parler de cet instinct maternel dont on parle, etc., et qui n'est pas toujours là à 100%, pour ne pas culpabiliser les femmes qui ne le ressentent pas. Je sais qu'il y en a qui ne le ressentent pas automatiquement. Mais il y a un lien qui est là, une forme de lien, appelons-le autre chose, appelons-le lien tout court, qui est là parce que ce bébé est en gestation en nous, à l'intérieur de nous. Un papa, il commence à vivre sa paternité à quel moment exactement ?
On sent un cœur battre, on l'entend. Donc oui, on s'impatiente de le prendre dans ses bras. Certes, ce n'est pas la même sensation que la maman qui le porte dans le ventre. Ça, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on essaie de se rattraper une fois qu'il sort, une fois qu'il est là. Hein. Et puis on regrette. Moi, j'ai regretté ces moments que je n'ai pas pu partager, que je perds. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, les enfants, c'est la qualité du temps qu'on passe avec eux. Et c'est pas le reste, c'est pas trimer, avoir de l'argent, leur payer les grandes écoles, tout ça ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est le temps qu'on passe avec eux et chaque moment qu'on rate ne repassera pas.
Absolument.
Mais l'éducation, elle est différente d'un enfant à l'autre. Mmh. Moi, mon second, Youssef, c'est quelqu'un, c'est un enfant du Covid, quoi. J'arrête pas de le dire en rigolant. C'est quelqu'un qui a été autonome dès le départ, qui savait ce qu'il voulait. Et il a fait sa place tout seul. Et puis, les parents, ils ont d'expérience.
C'est ça.
Le premier, on a peur, on couvre, on fait attention. Ben après, le second, on le laisse faire ce qu'il veut. Ouais. Il va se découvrir lui-même. Et c'est très, très différent. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même éducation qu'on donne aux deux.
Aussi, le premier avait eu un petit souci de santé.
Oui. Et moi, je pense que parfois, les choses difficiles de la vie nous font grandir. Et c'est vraiment le ciment qui permet de souder un couple, parce que c'est dans les moments difficiles qu'on va tester notre capacité à affronter les problèmes, à être unis, à être soudés. Il a fait un AVC néonatal et qui était très grave. Et grâce à Dieu, les choses ont bien évolué parce que c'était un combat, des séances de rééducation, trouver la bonne équipe qui va l'entourer. Et aujourd'hui, ça se passe très très bien. Mais bon, c'est des sacrifices. On finit par payer grâce à Dieu. Et ça, c'est vraiment des leçons de vie. Ça nous permet d'apprécier ce qu'on a.
Est-ce qu'on sait comment ça arrive, ce genre de choses, un AVC néonatal?
Écoute, on a beau chercher, on a fait tous les bilans possibles et imaginables. C'est un truc qui est là, que le destin t'impose pour tester ta capacité, pour voir ta foi. Il faut avancer. Hein. Et puis, moi, je dis, dans des moments pareils, il ne faut pas regarder derrière. Il faut surtout prendre des décisions pour le moment. Alors, aujourd'hui, je suis dans une telle situation. Je ne me projette pas. Mm. Je me dis, c'est quoi la meilleure des choses que je peux faire pour cet enfant à l'instant présent? Et quand j'atteins cet objectif, je vais voir l'objectif suivant. C'est-à-dire, il ne faut pas se projeter parce que c'est de l'énergie perdue, c'est inutile. Il faut vivre le moment et ce qui est le meilleur à faire pour lui dans cet instant. Donc, oui. Trouver le meilleur praticien, trouver la meilleure technique, lui donner le meilleur, tout l'amour qu'il y a, inconditionnel, parce que c'est très important de faire sentir sa confiance en lui-même, la confiance qu'on a en lui. Et puis, le destin, les choses ne font qu'aller mieux. Il faut laisser le destin faire et faire son possible et laisser le destin agir par la suite.
Vous avez toujours été dans cet état d'esprit, vivre au... gérer le moment et ne pas se projeter, parce que quand on a, pour revenir à qui vous étiez pendant une première partie de votre vie, donc premier de la classe, ensuite vous êtes allé faire médecine pendant 3 ans, toujours à vous battre pour être parmi les premiers, etc. Et on est toujours dans la projection, en fait. On se projette à être le meilleur parce que voilà qui suit. Est-ce que vous aviez déjà changé avant cette expérience de l'AVC néonatal, ou bien c'est ce qui vous a fait changer de mindset?
Non, mais ça a renforcé mes choix que j'avais fait avant. Parce que moi, par exemple, l'une des pires années de ma vie, c'était l'année du bac. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle pression dans la famille, dans la société, de faire la meilleure chose, que finalement... on s'en fout de ton bien-être et de ton épanouissement. Et je trouve que malheureusement, le système éducatif actuel est toujours pareil. Moi, le directeur de mon aîné, il est étonné quand je rentre chez lui, que je ne suis pas exigeant, que je lui dis « je veux juste qu'il soit épanoui ». Et après, quand on dit « oui, mais les parents, ils n'arrêtent pas de me dire « non, on veut le meilleur pour notre enfant », moi, je lui dis en rigolant. Je lui dis, écoutez, monsieur, il me dit quoi? Il me dit, les plus riches d'entre nous aujourd'hui, ce n'étaient pas forcément les premiers de ma classe, c'est plutôt les derniers, les cancres qui osaient les choses. Donc finalement, moi, je veux que mon fils soit épanoui. Je ne dis pas que les études, ça ne sert à rien, mais il faut les faire avec amour. On doit se projeter, mais d'une manière logique, c'est-à-dire on doit assurer sa retraite santé, c'est-à-dire vieillir en bonne santé, etc. Mais la santé est tôt, parce qu'on peut bien penser à gagner sa vie et à assurer son avenir financier, mais si on n'a pas la santé, on n'a rien. Et l'argent ne peut pas acheter la santé, comme l'argent ne peut pas acheter l'éducation des enfants. Et donc, finalement, moi, quand j'ai fait cette année blanche, quand j'ai eu ce déclic, moi, je dis, j'aurais aimé qu'on me le dise avant. Hein. Moi, je n'arrête pas de le dire aux étudiants que je coach durant mon cursus scolaire ou là, durant les étudiants que je reçois dans leur plan de fin d'études ou les doctorants que je parraine aussi. Je n'arrête pas de leur dire, il faut être passionné par son métier. Je dis le qanaa et l'amour du métier parce que l'argent n'achète jamais la santé, n'achète jamais le bonheur. Il y contribue, mais il ne l'achète pas.
Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance, dans ce rendez-vous masculin sur Médien et bien sûr en avant-première sur Médien Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Médien Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.